Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Forensic avec Solal Jacob, qui est l'un des cofondateurs d'Arxis. Et pour cet épisode, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Eric Fraissinet.
Salut.
Eric Leblanc.
Qui se fait engueuler par sa copine.
Il y a les deux Eric de la Sécu.
Nicolas Ruff.
Hello.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc Solal, bonsoir.
Salut, ça va ?
Merci beaucoup de participer avec nous à cet épisode. Donc le Forensic, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est ?
Ben, le Forensic, à la base, c'est utiliser des techniques d'analyse qui viennent de ce qu'utilisaient principalement les enquêteurs pour trouver des preuves sur un système d'information. Donc ça a un côté légal, parce que le forensique, le terme à la base, ça vient de la médecine légale anglaise. Et le but, donc, c'est de trouver des preuves qui vont permettre de répondre à des questions qui, quand, quoi, où, comment, grâce à des preuves dont on va pouvoir prouver qu'elles n'ont pas été modifiées. À la base, c'est ça, et aujourd'hui, le terme, il a un peu changé, parce que, enfin, personnellement, je trouve que dans le milieu de la sécu, on l'entend pour un peu tout, parce qu'on appelait de l'analyse malware avant, maintenant c'est du forensique. Il y a des fois, on confond réponse sur incident et forensique, mais à la base, il y a quand même un côté légal dans le forensique.
Mais attends, c'est assez réducteur comme définition, parce que 95% des outils qu'on utilise dans le forensique n'ont pas de valeur légale, entre guillemets.
C'est pas vraiment du forensique. Enfin, pour moi, parce que le terme forensique, ça veut dire légal.
Oui, plus précisément, forensique, ça vient du forum en latin. Et l'idée, c'est l'espace où tu présentes les preuves, ça veut dire le tribunal. Et donc, c'est vraiment la collecte des preuves pour l'investigation et pour la présentation devant le tribunal pour le jugement.
Ça suppose qu'on arrête des fois des individus cyber-malveillants. Ce qui est loin d'être le cas dans la plupart des cas d'APT.
Qu'on collecte des preuves, en tout cas.
Ouais. Après, c'est vrai que le terme, je pense qu'il a pas mal évolué. Après, est-ce que c'est toujours lié à ses racines ou pas ? C'est un peu compliqué de savoir aujourd'hui, quoi.
Après, pour les autres cadres où il est utilisé, ce qui est intéressant, c'est à la fois l'éthique, la qualité de la façon de travailler, la notion de traçabilité, par exemple, est importante pour démontrer quelque chose. Et donc, tu peux démontrer quelque chose à des fins judiciaires ou démontrer quelque chose à des fins d'exploitation technique au sein d'une organisation pour dire ben voilà, c'est pour telle raison qu'on a eu tel incident. Et donc il y a aussi cette acception là qui est possible. Donc ça peut avoir une valeur plus large tout simplement par les techniques et puis par la façon de travailler qui sont nécessaire dans l'univers de l'investigation numérique. Alors moi, j'aime pas trop qu'on utilise le mot forensic, d'ailleurs, en général, en français. Investigation numérique, c'est pas mal.
Tu préfères la science inforensique ?
Alors ça, j'aime pas trop. Ça fait un peu vieille informatique, mais pourquoi pas.
Alors, quelles sont les problématiques qu'on rencontre lorsqu'on fait du forensic ?
Bah justement, d'après ce qu'on a dit, déjà, il y a la collecte des preuves. Est-ce qu'on les collecte? Est-ce qu'on fait une copie de disque? Est-ce qu'on fait une copie de RAM? Donc, est-ce qu'on prend en compte un peu le côté légal ou pas? Et après, il y a tout le problème de... Une première partie, en gros, c'est l'extraction de données virtuelles. Donc, c'est extraire le maximum d'informations, les systèmes de fichiers, les fichiers supprimés, les métadonnées. Et après, la partie problématique, c'est la partie où on va trier l'info pour retrouver ce qui nous intéresse dans une masse d'informations et la filtrer pour trouver un élément intéressant là-dedans. Donc c'est un peu les problématiques techniques qu'il y a principalement.
Ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes complètement différentes. Il y a la collecte, l'analyse, et l'analyse, elle se fait potentiellement sur ce que tu as collecté. Enfin, je veux dire, tu peux chercher des fichiers, etc. Mais après, c'est des boucles de rétroaction, parce que tu peux aller analyser un malware ou corréler avec une information que tu as obtenue de l'extérieur par... Threat intelligence, comme on dit aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qui rentre dans le cadre du forensic et qu'est-ce qui est plus de l'enquête traditionnelle ou...
Bon, pour moi, ce qui est vraiment dans le cadre du forensic, c'est vraiment la partie technique de extraction et recherche, analyse d'information, que la partie sex intelligence, par exemple.
Est-ce que le reverse engineering de fichiers, c'est encore du forensic?
De reverse engineering de file system, tu veux?
Non, je veux dire, tu trouves un truc chiffré sur le disque de quelqu'un, ça a été chiffré avec un point exe qui est à côté. Ouais. Est-ce que l'analyse de ce point exe, c'est encore du forensic ou c'est encore une, c'est autre chose?
Bon, pour moi, c'est de l'analyse de malware. Quoi, ça. Enfin, c'est là où maintenant on mélange un peu tout. Après, c'est quelque chose que tu utilises dans le cadre du forensic, mais pour moi, c'est pas vraiment du forensic. Enfin, on faisait du reverse et on faisait de l'analyse avant d'employer le mot forensic et on n'employait pas forcément. Quoi. Enfin, okay. Moi, c'est mon point de vue, après, je sais pas.
Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre des distinctions aussi tranchées entre les différents aspects de l'investigation numérique? Est-ce que c'est pas finalement quelque chose d'assez académique pour pouvoir dire un tel est expert en réponse aux incidents, un tel est expert en collecte de preuves, tu vois?
Ouais, bon, au final, il faut savoir un peu tout faire, c'est sûr, mais ça permet quand même de, je sais pas, de valider certains domaines quand même, là, comme tu dis, de savoir quelqu'un et connaît un domaine et peut faire autre chose. Est-ce que l'analyse de réseau, justement, avec le monde, parce que des fois on parle de forensic réseau, mais là justement il n'y a pas du tout de côté. Enfin, là, c'est quand même complètement différent. Quoi.
En tout cas, il y a des contraintes spécifiques quand tu es amené à travailler dans un cadre judiciaire. Par exemple, quand un expert judiciaire est nommé en France pour. Analyser un disque dur, même s'il fait le même travail que ferait un analyste classique, hein, en analysant le disque dur, même s'ils travaillent tous les deux de la même façon, rien que la façon de présenter les résultats, y a des contraintes particulières qui lui sont imposées par le droit. Donc quand tu travailles vraiment dans un cadre légal, judiciaire, tu as des contraintes supplémentaires, de la même façon que si tu le faisais dans le cadre d'une procédure de e-discovery à l'américaine, hein, c'est cette procédure qui vise à récupérer des informations qui peuvent être présentées dans n'importe quelle procédure à vocation légale dans le système américain, eh bien, il faut respecter un certain formalisme qui est imposé soit par la loi, soit par la jurisprudence.
Oui, mais je crois qu'en fait, là, il y a une distinction très importante à faire entre le travail de la police et des experts judiciaires qui, effectivement, dans 99% des cas, travaillent sur... Enfin, peut-être pas 99, mais c'est essentiellement la pédopornographie et le reste du temps, c'est un petit peu de contrefaçon, etc.
Ouais, bah là, tu te trompes un peu, mais bon.
Et le travail des entreprises qui font essentiellement la réponse aux intrusions informatiques, mais qui sont... Enfin, qui s'intéressent assez rarement au reste, quoi. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais...
Moi, sur les 99%, tu te trompes. Parce que
oui, il y a aussi tout ce qui est skimming, etc. Oui, c'est vrai.
En tout cas, il y a une grande variété de choses, et puis ça dépend beaucoup des types d'équipes dans lesquelles tu es affecté, par exemple, ou de l'endroit géographique où tu te trouves, etc.
Enfin, moi, je sais que j'avais pas du tout été intéressé par l'expertise judiciaire, parce que c'était. Enfin, techniquement, ça n'avait pas un intérêt énorme, mais comme tu dis, par contre, il y avait des contraintes rédactionnelles et puis des missions un petit peu pénibles. Enfin, tout le monde connaît le bloc de Zitom.
Oui.
Ça n'a pas vraiment envie, quoi. En tout cas, la réponse aux incidents d'entreprise est beaucoup plus fun.
On en est où, d'ailleurs, sur la réponse aux incidents d'entreprise? Est-ce que c'est répandu en France ou est-ce qu'on reste sur un truc complètement marginal géré par quelques instituts gouvernementaux?
C'est pas encore quelque chose de bien reconnu. Ça, c'est clair. Il y a clairement pas encore, à mon sens, une démarche des entreprises pour chercher des prestations de réponse à incident. On a posé la question récemment à un certain nombre de RSSI dans le cadre d'un groupe de travail auquel on participe. Et c'est pas encore systématique que d'avoir cette démarche. C'est pas leur priorité, la compréhension détaillée de ce qui s'est passé. Ils ont avant tout une priorité de remise en condition du système, etc. Et nous, on essaye de faire passer le message qu'il y a nécessité de comprendre ce qui s'est passé pour prendre les bonnes mesures pour éviter que bah, ça se renouvelle, par exemple.
J'ai l'impression que les entreprises actuellement ne voient pas grand-chose. Et forcément, quand tu ne vois pas, eh bien, tu peux pas mener des actions pour déterminer ce qui s'est passé puisque tu n'as rien vu passer. Donc, je pense que la première chose, déjà, ça serait d'être en capacité de voir et puis ensuite de faire du forensique.
Bah, il y a une partie détection avant de pouvoir faire du forensique. C'est sûr que si on ne sait pas qu'il s'est passé quelque chose, on ne peut pas aller l'analyser après non plus.
Et la notion d'investigation numérique commence à cette étape-là, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est assez intéressant. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les outils de détection, par exemple un simple antivirus et la façon dont il fait remonter l'information, par exemple, à un serveur centralisé quand c'est géré comme ça au niveau d'une entreprise, qu'il le fasse avec en respectant un certain nombre de critères, en préservant les preuves. La notion de quarantaine chez les antivirus, elle est intéressante pour la collecte de preuves, etc. Voilà, il y a ces démarches-là. Et tu peux répéter le même raisonnement sur les autres systèmes de détection. Est-ce que les timestamps, comme on dit en bon français, l'horodatage des événements est correctement synchronisé pour que tu puisses ensuite faire correctement à la fois ta démarche technique d'investigation de réponse à incident et puis ensuite une démarche plus judiciaire si tu estimes que tu en as besoin, avec des éléments dont les preuves sont collectées dans un contexte qualifié, par exemple sur ces questions d'horodatage.
Oui, mais là tu parles encore de collecte de preuves, mais bon, globalement...
Oui, mais ça t'aide aussi dans la phase de compréhension des incidents. Si tu te trompes de 10 minutes ou 20 minutes dans un système gigantesque avec des tonnes de logs dans tous les sens, t'es quand même bien content si le truc te dit à quelle minute précise ça se trouve pour cibler exactement les logs dans lesquels tu dois regarder, pour corréler les choses, etc. Donc ça aide d'avoir une certaine méthodologie quand même. Bon alors Solal, t'as peur de faire du forensique sur les réseaux ?
Sur les réseaux ? Pourquoi ?
Ouais. Ben, je sais pas, tu faisais la différence par exemple tout à l'heure.
Ah non, l'analyse forensique... l'analyse réseau, c'était sur le même débat un peu que l'analyse malware. Est-ce que c'est vraiment du forensique ?
Alors, moi j'ai une définition aussi large que possible, c'est-à-dire que les preuves, tu peux les collecter à la fois sur des supports, sur un système en fonctionnement, donc dans de la mémoire vive, y compris dans une mémoire vive de carte graphique s'il faut, y compris donc sur un réseau en cours de fonctionnement. C'est ce que tu fais classiquement quand tu essayes de comprendre tu fais de la rétro-ingénierie qu'évoquait tout à l'heure Nicolas, hein, pour essayer de comprendre le fonctionnement d'un protocole mis en œuvre par un dans le cadre d'une attaque ou par un virus, etc. Et tout ça, pour moi, tu passes dans l'univers de l'investigation légale du forensic quand tu appliques les méthodes et qui sont liées à des contraintes qui nous sont imposées par l'univers légal qui nécessite une démarche de collecte de preuves par rapport à une simple démarche de compréhension des phénomènes. Mais sinon, quel que soit le lieu où tu collectes ces éléments, tu peux les collecter dans des signaux en train de circuler dans les airs. Tu peux, voilà. Par exemple, imaginons qu'on ait à investiguer une situation de piratage d'un téléphone qui sert à faire du paiement sans contact NFC. Il faudra peut-être faire des investigations sur les communications NFC de ce téléphone. Voilà. Donc, t'as pas de limite au lieu et aux interfaces, etc., par lesquelles tu collectes des données numériques.
Donc, tu vois, le fait de faire du forensique, c'est qu'on est passé par une étape de collecte.
Il y a une étape de collecte ou d'observation et une étape d'exploitation et d'analyse, et puis ensuite une étape d'interprétation.
En fait, ce serait le fait de faire ces trois étapes, c'est ça qu'on pourrait appeler de faire du forensic.
Oui, en respectant une certaine méthodologie qui permet de te soumettre en quelque sorte aux contraintes qui sont rendues nécessaires par le cadre judiciaire.
D'accord.
Et Solal, tu t'es pas présenté, mais toi-même, tu es éditeur d'un logiciel de forensic, si je me trompe.
Ouais, mais nous, on est vraiment sur la partie édition. Donc, on fait rarement des missions d'analyse nous-mêmes. On est vraiment plus développeur et éditeur de logiciels. Nous, c'est du développement en appliquant des méthodes, justement, qui n'est pas de modification, pour essayer d'extraire correctement les informations qui vont être présentées, ce genre de choses.
Et ça vous arrive, vous faites beaucoup de développement de plugins pour des clients aussi.
Ouais, voilà, ouais. On va développer après des modules spécialisés où on va faire des versions du logiciel spécial avec des fonctionnalités adaptées pour certains clients.
Ton logiciel, tu peux le présenter pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore?
Alors, DFF Digital Forensic Framework, c'est un logiciel open source d'analyse. Donc, le but, c'est de pouvoir analyser soit une image liste, soit une image de RAM, soit un périphérique qui est directement connecté à l'ordinateur. Et le but, c'est d'avoir des scripts qui vont permettre d'extraire automatiquement de l'information. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, on a d'abord la copie, après on a la phase d'extraction d'infos, donc il y a des modules qui vont être appliqués pour extraire les partitions, les fichiers supprimés, les bases de registres, les logs Windows, etc. Donc, la première étape, c'est d'avoir le plus d'informations. Après, on a un moteur de recherche et de filtre, et aussi de script qui permet en fait de retrouver les infos intéressantes pour pouvoir les présenter, les mettre dans un rapport. Et après, on a différents modules qui permettent d'aller plus loin à chaque fois sur les différentes étapes.
Donc, vous supportez quelle plateforme à l'heure actuelle?
Le logiciel tourne sur Windows et Linux. Et après, on est compatible avec NTFS, XFS, HFS, donc Mac, Linux, Windows pour les systèmes les plus communs. Voilà. Donc après, on est distribué sur quasiment tous les distros Linux. Et on package aussi la version Windows. On fournit aussi une version professionnelle du logiciel avec du support, etc. Une version un peu plus avancée. On a un peu les services classiques de l'open source.
Alors justement, comment ça se passe au niveau open source? Vous avez beaucoup de contributions externes?
On a eu des contributions. On a eu une thèse de quelqu'un qui bosse maintenant un peu sur Recall, d'ailleurs, de Google, mémoire. Mais c'est un peu dur parce qu'en forensique, je pense que la plupart des gens sont plus utilisateurs que développeurs. Donc avoir des contributions, par exemple, sur des trucs comme un module pay system, c'est assez rare quand même. Donc on a plus des contributions, ça va être du conseil sur ce qu'on a développé, ça va être de la traduction, des petites choses comme ça.
Je pense à Volatility, hein, qui est un outil de forensique que tout le monde doit connaître. Ils organisent quand même régulièrement des concours de plugins, etc. Enfin, ils arrivent à stimuler une communauté autour de leur outil, quoi.
Bah ouais, c'est sûr. Bah, on devrait peut-être faire un concours et après, c'est vrai que je pense que les gens qui vont plus sur l'analyse de RAM, ceux qui font plus de l'analyse malware en général. Et du coup, c'est des gens qui ont peut-être plus des compétences de dev, quoi. Des gens qui ont utilisé, déjà, notre logiciel est un peu plus large, c'est souvent utilisé par des gens qui font du forensic un peu plus classique, donc qui ont moins de compétences de développeurs.
Qu'est-ce que tu appelles du forensic classique? Enfin, votre base utilisateur, c'est des experts judiciaires ou...
Ouais, voilà, des experts judiciaires, du enforcement, des gens qui vont chercher des fichiers supprimés, des choses comme ça.
Et en gros, il y a combien d'experts judiciaires? Enfin, c'est quoi votre base d'utilisateurs? Ça se compte en dizaines, en centaines, en milliers?
Bah, ça dépend. Si tu comptes la base open, des gens qui étaient la version pro, la base open source, en téléchargement du soft, je sais pas, on va avoir 60 000 à prendre sur toutes les distros. Donc, c'est vrai que c'est difficile de monter. Après, c'est peut-être qu'ils n'ont pas assez le travail pour animer la communauté open source. C'est pas. Mais c'est que on n'a pas énormément de contributions sur le DFF pour l'instant.
Et comment ça se passe, vos relations avec les instances de l'État? Enfin, je veux dire, l'ANSI est en train de labelliser les prestataires de réponse aux incidents et autres.
Ouais.
Donc, je suppose que Ils doivent plutôt, en plus ils sont très label français, etc. Donc je suppose qu'ils doivent voir plutôt d'un bon œil le fait qu'il y ait des logiciels forensiques français.
Ouais, c'est sûr, mais après, eux, ils sont plus sur le côté à labelliser les services pour l'instant. Après, le problème, c'est que faire labelliser un produit par l'ANSSI, pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Ils nous ont proposé au début de la société, mais eux, ce qu'ils nous disent, c'est on va trouver des failles dans votre logiciel. Moi, je veux bien, mais ce que j'aimerais, c'est qu'ils me disent, on va faire un test comme le NIST fait en disant, là, vous sortez des faux positifs, des faux négatifs. C'est ça qui est intéressant, qui est pour moi important dans un logiciel de forensique. C'est pas de me dire, on peut peut-être trouver un exploit dans votre SAP. Limite, c'est pas ce genre de qualification qui m'intéresse pour la NANSI, c'est pas ça.
Alors peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez retravailler aujourd'hui avec l'ANSI, parce que ils ont pas mal évolué justement sur leur approche par rapport à ces types d'outils, et le fait qu'il y ait aujourd'hui un référentiel sur les prestataires de réponse à incident fait que mécaniquement il y aura la nécessité de réfléchir à la qualité des outils de réponse à incident et d'investigation numérique, et qui n'est pas du tout uniquement une problématique de sécurité du logiciel.
S'ils en prennent ça en compte, ça serait bien. Après, dans d'autres pays, c'est pris en compte, il n'y a pas que les États-Unis. Donc, il y a d'autres gens qui peuvent tester notre logiciel et nous faire des retours sur le côté forensique. Mais qu'en France, c'est pas vraiment. Pour l'ANSSI, en tout cas, ça peut être le cas.
Le constat qu'on fait sur les outils d'investigation en termes de qualité, hein, il est pas évident. C'est-à-dire que si tu demandes à la plupart des labos, ils ont tous plusieurs outils et ils te diront tous sur les cas importants ou sur les cas un peu chichiteux, on va tester avec plusieurs outils parce qu'il arrive assez souvent qu'on trouve pas les mêmes résultats. Et ça, c'est un constat aussi bien pour les outils d'analyse de téléphone que les outils d'analyse de plus dédiés pour les systèmes de fichiers de systèmes informatiques. Et ça, c'est lié pas mal au fait que c'est très dur de faire et de concevoir un logiciel aussi complet, parce qu'en général, c'est très complet avec énormément de fonctionnalités, qui soit à jour de toutes les fonctionnalités sans qu'il y ait eu introduction de différents bugs. Et une des raisons, et je pense que vous avez rencontré ça, Solal, ouais, c'est que beaucoup des fonctionnalités, à la fois des systèmes de fichiers, des formats des fichiers, etc. On en avait parlé l'autre jour avec Angèle Albertini, voilà, sont pas documentées.
Sont pas documentées ou viennent déjà du reverse engineering, TFS. Voilà. Après, on peut l'interpréter de différentes façons parce qu'on n'a pas les specs de Microsoft. Donc, du coup, on peut regarder les différentes façons qui ont été faites pendant les versions qui sont sous Linux, etc. Mais après, nous, on peut l'interpréter autrement, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué. Si on prend le format Office, ce qu'a dit Angèle Albertini aussi, il y a 6000 pages de doc, et quand on regarde la doc, des fois, c'est marqué, le champ là, c'est de la data. Forcément, c'est de la data, ok, quoi. Du coup, forcément, les logiciels vont pas toujours avoir les mêmes résultats, vont pas toujours aller aussi loin. Après, c'est vrai que c'est peut-être aux experts de faire des comparaisons et de voir est-ce que ça ressort des infos pertinentes.
Et après, ce qui est important dans un logiciel d'investigation, c'est pas tellement qu'il te montre magiquement un résultat. Par contre, effectivement, c'est important qu'il te montre rapidement quelque chose, mais qu'il te donne la capacité toi-même de vérifier. Et c'est ce que doit pouvoir faire, alors pas forcément n'importe quel enquêteur, mais un vrai expert, il doit être capable non seulement d'interpréter les résultats que lui présente le logiciel, mais s'il faut, d'aller vérifier octet par octet, bit par bit sur certaines choses, si c'est un élément essentiel dans l'enquête, telle date ou tel élément précis, si ça devient important, il doit être capable de le vérifier. Et c'est nous, c'est un exercice qu'on fait de temps en temps, de leur montrer tel système de fichiers, ça correspond justement à telle organisation de suite d'octets sur tel secteur, etc.
Je suis d'accord, mais nous on nous demande quand même surtout que ça soit automatisé, simple, et que ça sorte.
Exactement.
En général, on nous demande rarement l'inverse.
Tu as quand même accès au format hexadécimal d'affichage de l'information.
pense que justement, tu peux aller assez loin avec le logiciel sur cette partie, mais franchement, on nous demande rarement ça. Et on nous demande plus de se diriger dans la partie clic et automatisation que dans le côté un peu plus bas niveau, quoi.
Quand vous parlez de format de fichier, d'office, etc., enfin, je veux dire, ton logiciel, il va jusqu'à quel niveau? Parce que, en théorie, t'extrais les fichiers, mais tu les ouvres pas toi-même.
Comment ça? Je l'ai vu entendre. Par
Bah,
exemple, si on est ouais.
supposons que tu as un fichier supprimé qui est dans la poubelle, qui est au format docx, tu ressors le fichier de la poubelle, mais après, est-ce que tu vas jusqu'à essayer de parser les structures internes pour.
Bah, pendant qu'on a un module Compound, on extrait les images, le texte de tout ce qui est Compound, donc des points doc. En plus, si c'est un Messi, ça va extraire les fichiers, etc.
Tout
Mais ça, c'est.
ce qui contient d'autres informations, ça peut être exploité. Ce qui est typiquement demandé, c'est les conteneurs de mail, où tu vas chercher à extraire les mails, les pièces jointes, etc., pour les rendre accessibles quasiment immédiatement à l'enquêteur.
Ouais, mais ça, je veux dire, c'est pour moi, c'est le boulot d'autres outils. Hein. Enfin, je veux dire, si tu as un fichier PST, par exemple, sortir les mails du PST, c'est plus un outil.
Alors c'est peut-être pour ça que DFF est un framework et pas une plateforme unique. Hein.
Bah,
Un
le but,
seul.
c'est quand même de profiter du fonctionnement du VFS, etc., pour avoir le plus d'infos. Si on extrait une image d'une pièce jointe d'un PST, c'est de pouvoir lancer le module exif dessus pour récupérer les infos exif. Donc c'est quand même d'extraire le plus d'infos dans la phase de harvesting, où on extrait une masse d'infos pour après pouvoir faire des recherches, etc., dans le logiciel. Donc si on se bloque au file system, on est quand même vachement limité.
Ouais, ça me semble quand même un peu audacieux, quoi. Parce que quand tu vois que la complexité simplement du PDF, par exemple, où tu peux modifier dynamiquement l'affichage des pages, enfin, tu peux extraire le contenu, mais
On
finalement,
fait
est-ce
pas
que tu es.
l'affichage, hein. Nous on fait pas la mise en forme, on fait pas LibreOffice non plus, Mais faut, bah après c'est plus pratique que ça soit déjà intégré dans le logiciel que de réutiliser un autre logiciel de toute façon pour extraire le contenu. Donc, ça va revenir un peu au même, mais ça sera moins bien fait. Enfin, ça sera moins bien fait, ça sera pas intégré avec d'autres choses. Par exemple, dans DFS, tu peux lier avec la Mavé ou un autre antivirus, tu peux. Donc, si ça t'extrait les exés qui ont été balancés dans les boîtes mail et que les scans directement, c'est plus facile que de prendre la boîte mail, l'extraire, récupérer les exés, les rebalancer dans un antivirus, etc. Enfin, c'est déjà bloqué en écriture et ça va se faire tout seul. Tu pourras coder ton plugin, donc c'est quand même un peu le but du logiciel aussi. Après, forcément, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça revient à ce que dit Angèle Bertini, il y a des formats de fichiers qui sont super complexes et on peut pas toujours les interpréter de la meilleure façon. Après, il faut faire un choix à chaque fois.
Et en fait, je pensais au fait que vous avez gagné le prix d'innovation aux Assises de la sécurité. Pour moi, les Assises de la sécurité, c'était. Enfin, c'est un peu loin du public traditionnel. Il n'y a pas d'experts judiciaires aux Assises de la sécurité, il me semble.
Oh, quasiment, il y en avait quasiment pas, non.
Enfin, ça vous rapporte quoi, ce type d'événement, ce type de prix?
Bon, ça a fait connaître la société, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à des RSSI, majoritairement là-bas, qui n'avaient jamais entendu parler de Forensic, parce que déjà à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup en France, et qui n'aimaient pas forcément non plus trop l'open source. Donc c'était on les a plus, comment dire, on leur a plus expliqué un peu ce que c'était, parce que c'était la première fois qu'ils tombaient face à ça, quoi. Donc après, c'était un peu le lancement des. En France, je pense que petit à petit, ça a évolué. Après, on avait fait un autre salon en Angleterre. C'était aussi des RSSI. Et tous les gens qu'on voyait ils venaient voir, ah, Forensic, il y a autre chose qu'un case qui existe vraiment. Mais on a tous un logiciel de Forensic au cas où il nous arrive autre chose. Et c'est pas du tout la même mentalité, quoi. C'est vraiment complètement différent, quoi.
Enfin, il y a une différence entre avoir un logiciel de forensique et avoir une équipe de gens à temps plein chez toi qui savent se servir du logiciel. Hein.
Bah, et on va dire qu'ils avaient une personne formée chez nous au moins pour savoir s'en servir et pouvoir répondre en faisant le minimum un dump et ce qu'il fallait au cas où. Après, est-ce qu'il a fallu quelqu'un en plus pour analyser ou faire une pré-analyse rapidement. Mais en tout cas, ils savaient ce que c'était que le forensic et apparemment, on a beaucoup qui utilisaient déjà du Hangcase, du XFAIE ou quelque chose comme ça. En France, quand on parlait de forensic en 2009, tout le monde nous regardait en disant qu'est-ce que c'est, donc il fallait bien expliquer ce que c'était. Forcément, là, c'est un peu compliqué.
Le problème du forensic à Monaco, c'est qu'il n'y a pas de poney là-bas, ils font du polo.
Tu dis ça, mais j'avais entendu une histoire comme quoi, dans un hôtel à Disneyland, un mec avait demandé à se faire livrer un poney pour l'anniversaire de sa fille. Je pense qu'il y a des gens qui ont des poneys sur leur yacht au large de Monaco.
Mais quand vous avez eu ce prix, moi dans mes souvenirs, il n'y avait pas énormément de jeunes entreprises dans le domaine de la cybersécurité française. Et aujourd'hui, il y en a un peu plus. Et vous faites aussi un peu partie des pionniers. Hein. Il y avait des gros déjà, il y avait quelques entreprises, mais vous faites quand même partie des premières à vraiment vous détacher du lot. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui. Donc c'est normal que vous ayez eu ce prix à cette époque-là. Je pense que ça se distinguait pas mal dans le paysage.
Ouais, et puis c'est le sujet était nouveau. Quoi. Enfin, le forensic, c'était pas encore connu, donc ça amenait quelque chose de nouveau, je pense. Par rapport à tout ce qu'il y avait de plus classique, antivirus, firewall, toujours un peu la même solution, des entreprises qui font du service.
Ouais. Alors, Johan, tu as le droit de poser ta question maintenant.
Je suis revenu, j'ai été éjecté. Donc, Solal, est-ce que la problématique des formats de fichiers qui avait été évoquée par Angèle Bartini, à savoir par exemple qu'un fichier, un seul fichier peut contenir deux types de fichiers différents ou que un fichier d'une même nature peut présenter des résultats différents. Est-ce que ça, c'est un casse-tête auquel vous êtes confronté?
Ah ouais, ben, bien sûr, ouais, c'est un vrai problème. Après, nous, dans le logiciel, par défaut, si on a plusieurs modules qui matchent sur un fichier, et ils vont tous appliquer, donc on peut extraire de la donnée de différentes façons. Après, il faut que ces modules ils soient écrits. Et le problème, enfin là, ce qu'on développe, en fait, on développe une autre librairie qui sera open source aussi, avec une façon super, un peu comme Construct en Python, mais qui va un peu plus loin sur Deprast, pour décrire super facilement un format de fichier. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est c'est qu'on va écrire des modules nous-mêmes, on va utiliser la libmagic pour détecter le type de fichier, on va encore utiliser notre syntaxe pour faire du carving, donc tout ce qui est récupération de fichiers. C'est-à-dire que pour analyser le même fichier, on va avoir au final trois méthodes. Et on a moyen d'avoir un système, on écrit une lib pour essayer de simplifier un peu ces problèmes. Après, il y aura toujours des problématiques là-dessus. Ça, les formats sont trop mal spécifiés à la base pour avoir quelque chose qui soit magique et qui fasse vraiment qui donne toujours le résultat attendu. Quoi.
Je me suis dit que si tu le faisais en OCaml, ça marchait automatiquement.
Ben, c'est ce que il paraît, mais bon, nous on part sur du C++.
Votre logiciel, il est essentiellement codé en Python, non? C'est pas C++ anecdotique ou je me trompe?
Ouais, il y a des modules codés en C++, c'est une partie de l'API. Après, pour l'instant, on utilise Swig pour le binding, quoi, comme ça, t'as accès à tout en Python. Aussi, dans le but d'avoir plus de contribution. Et là, la lib qu'on va faire, elle sera bindée. En fait, ça nous permettra de remplacer Swig en fait, directement. Parce que le problème de Swig, c'est que il y a des choses qui sont pas patchées et qui patchent pas et qui forment.
Ça, c'est pour la GUI.
Non, Swig, c'est ce qui génère les bindings en fait de C++ à Python. Donc, si tu veux, c'est utilisé partout dans le logiciel. Quoi. Et la GUI aussi en PQP.
Ouais, ce que tu n'as pas expliqué justement peut-être, c'est que ton outil était accessible à la fois en GUI et en ligne de commande.
Ouais, donc t'as accès. Bon, en fait, on a deux UI, on a une console, on a une interface graphique, et après aussi, justement, il y a tout qui est bindé en Python, tu peux scripter directement en Python. Après, on a aussi un mini langage de script, en fait, tu peux lui filer un fichier. En gros, tu utilises soit des commandes de DFF, donc un peu des commandes shell, et que tu peux mélanger avec du code Python. Si tu veux. Donc ça, c'est pour simplifier un peu aussi le développement de script.
Et l'évolution, est-ce que comment est-ce que vous voyez la nouvelle fonctionnalité ou
L'évolution, il y a déjà des évolutions constantes par rapport à des nouveaux systèmes de fichiers, des nouveaux trucs analysés. par rapport à l'évolution des OS. Et après, le but, c'est vraiment de partir sur une version distribuée, réseau, avec un système d'agents, etc. quoi. Pour pouvoir plus facilement faire une analyse à distance, un peu comme ce que fait Google avec GRR, en fait. Donc, c'est aussi le but de la lib qu'on développe là, parce qu'elle nous permet de faire super facilement des RPC. Donc, ça sera assez facile de passer le soft en mode distribué, en fait. Je pense qu'il faut se tourner là-dessus parce qu'aujourd'hui la problématique de parc de plus en plus large à analyser et c'est pas vraiment possible d'aller à chaque fois copier un disque ou d'aller sur le poste pour l'analyser. Donc le but c'est de pouvoir analyser beaucoup de machines en même temps et de voir s'il y a les mêmes résultats, etc. Et c'est ce qu'on nous demande aussi beaucoup aujourd'hui, c'est une solution comme ça.
Donc finalement un agent sur les machines.
Ouais, je pense que ça sera sous forme d'agent qui en fait exécutera une partie des commandes et renverra des résultats qui sont analysés après de l'autre côté. Donc après, ça sera rempli, il fera juste du parsing de file system et on pourra query les objets à distance pour avoir les résultats qu'on recherche. Je pense que c'est là-dessus aujourd'hui les problématiques, ouais, c'est vraiment sur les parcs assez larges, sur les analyses de parcs assez larges. Après, je sais pas ce qu'en pensent les autres. En forensic, c'est un peu l'évolution qu'on voit. Parce que après, c'est supporter plus de nouveaux systèmes de fichiers, etc. Mais bon, ça, c'est l'évolution qu'elle sort dans le logiciel.
Je crois qu'on, de toute façon, on a deux points de vue assez opposés entre les gens qui font de l'informatique légale, on va dire, avec de l'extraction de disques durs, de la collecte de preuves opposables devant un tribunal, etc. Et puis, plutôt les gens comme moi qui sont, on va dire, sur du live forensic où tu fais même plus de collecte, tu t'analyses en temps réel des systèmes et puis tu remontes la piste le plus vite possible, quoi.
Ouais, bah, le but là, c'est que tu pourras l'utiliser dans les deux sens. Une fois que tu es un agent, tu peux dumper à distance ou tu peux avoir un shell et puis lancer tes commandes directement et regarder ce qui sort, ce qui t'intéresse.
Oui, non, mais de toute façon, je dis pas qu'il y a l'un s'oppose à l'autre. Hein. Je dis que c'est simplement que les objectifs sont pas les mêmes et du coup les moyens et les méthodes de travail sont pas les mêmes.
Bah, c'est sûr. Après, ça rejoint plus de la réponse sur incident que c'est pour ça que je fais un peu la distinction entre les deux. Quoi. Enfin, pour moi, ça c'est une méthode plus de réponse sur incident que pour Anzip. Le côté où il faut être rapide et faut collecter de l'information, mais où tu n'as pas vraiment à te soucier d'un cadre légal avec de la copie exacte, etc. Quoi.
Enfin, ça se rejoint quand même pas mal hein, quand on doit travailler sous contrainte et typiquement quand on intervient dans une entreprise, on est un peu sous contrainte. Un de nos objectifs, c'est de perturber au minimum le fonctionnement de l'entreprise, y compris quand on vient faire une perquisition. Hein, l'objectif, c'est pas de perturber la personne chez qui on vient faire des observations. Et donc l'intérêt d'avoir une méthode comme on dit en anglais, forensically sound, c'est-à-dire qui correspond aux règles de l'art dans l'univers de l'investigation légale, est rapide et qui n'a pas d'impact sur le système, et donc faire du live forensic, notamment l'investigation sur des systèmes en fonctionnement, c'est devenu une nécessité aujourd'hui. Et c'est vraiment tout l'enjeu de l'évolution de l'investigation légale.
Bon, Eric, ça me fait penser à qu'est-ce qui se passe effectivement si tu arrives à trouver des preuves dans une entreprise comme quoi il y a eu des comportements complètement illicites et que tu veux remonter sur un point de vue légal et que tu as fait justement du forensic un peu live comme tu viens de l'évoquer qui n'est pas vraiment du forensic et comment est-ce que tu arrives à ce que ce soit considéré comme des preuves?
Bon, j'ai toute une présentation sur ce genre de problématique. L'idée déjà de départ, c'est que l'objectif de l'investigation, quand elle doit respecter des principes forensiques, hein, de préservation de la preuve, c'est un objectif absolu. C'est-à-dire, c'est une sorte d'absolu que de toute façon tu ne peux pas atteindre. Déjà, il faut te rendre compte que c'est un peu comme le chat de Schrödinger. Le simple fait qu'on observe un système, de toute façon, ça va le modifier. Et pour te donner un exemple très précis, quand tu branches un disque dur, même si tu l'as protégé en écriture, le simple fait de l'allumer, son système d'exploitation interne, hein, son firmware, va mettre à jour un compteur de temps, etc., que tu trouves sur la piste de contrôle du disque. Hein, donc de toute façon, tous ces objets-là, tu les modifies parce que tu les observes. Et puis, par exemple, quand tu parles de support magnétique, tu modifies le support puisque la simple lecture peut le détériorer. La preuve, sur les supports déjà endommagés, il vaut mieux se dépêcher de lire et de faire la copie et n'avoir le besoin de faire une copie ou une lecture qu'une seule fois parce que tu risques de ne pas pouvoir le relire ensuite. Donc on modifie le support et il arrive qu'on modifie la donnée. Et ce qu'il faut être capable de faire, c'est pas de ne jamais modifier les données que tu observes, mais d'être capable de comprendre quel type de modification tu as pu apporter et d'avoir une traçabilité de tes actions sur les différentes zones, sur les différents objets, etc., pour être en mesure d'expliquer les différences que tu pourrais observer ensuite. Et donc, quand tu fais de l'investigation sur un système vivant, ça peut correspondre à des méthodes d'investigation légales, mais il faut respecter les mêmes principes, c'est-à-dire essayer d'avoir un impact aussi faible que possible sur le système. Et donc, par exemple, un des critères de choix des outils de copie de mémoire vive, c'est leur empreinte dans la mémoire vive elle-même. Si tu as un fichier qui fait 500 mégas pour faire un exécutable qui fait 500 mégas pour faire de la copie de mémoire vive, il va te poser des problèmes parce que le simple fait de le lancer en mémoire va effacer plein de données. Donc il vaut mieux avoir des exécutables légers, etc., etc. Mais tu vas toujours modifier un système quand tu l'examines. Donc une fois que tu as pris ça en compte, tu peux faire de la collecte de preuves dans toutes les conditions, y compris à distance sur un serveur, etc. L'autre élément, c'est qu'il se trouve que au pénal, en français, la preuve est libre. Ce qui nous a amené une grosse richesse et qui nous a permis de nous adapter à énormément de situations. Et donc, la preuve, elle n'est pas contrainte littéralement dans le code de procédure pénale. Hein. Il n'y a pas écrit dans le code de procédure pénale « tu dois copier un disque de telle façon, etc. » C'est que tu dois le faire en respectant l'état de l'art et prendre un maximum de précautions et être capable de démontrer devant le tribunal que ce que tu as fait correspondait à la réalité ou s'il y a des doutes, de les expliquer, etc. C'est ça qui est important. Donc, l'analyse de mémoire vive, c'est parfaitement acceptable dans un process dans un cadre judiciaire ou la récupération de données sur un système en fonctionnement, etc.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a déjà eu des cas où l'avocat de la défense a contesté justement la manière dont ont été collectées les preuves. Parce qu'aux États-Unis, il y a toujours cette histoire de Trojan Defense où tu dis qu'en gros, tu as été infecté par un virus et c'est ça qui a causé la présence de tous ces fichiers, etc. Est-ce qu'en France, parce que les juges, ils n'aiment pas trop être pris pour des cons non plus, quoi.
Alors, il y a différents types de procès. Il y a le procès correctionnel où tu es devant des juges professionnels et puis le procès aux assises pour les crimes essentiellement où tu es devant un jury essentiellement composé de gens du grand public et les conditions de preuve sont pas exactement les mêmes, hein. On parle d'intime conviction, etc. Alors donc déjà il y a une notion d'effet de manche qui va beaucoup jouer dans les procès d'assises. Créer le trouble chez la personne qui est en train d'écouter la description des preuves. Et donc, effectivement, il y a ce genre de questions qui sont mises en avant, parfois avec des vrais arguments techniques, parfois juste avec une volonté de créer le trouble chez celui qui écoute. Mais en France, on a eu assez peu de vraies critiques techniques sur des examens. Parfois des jurisprudences un peu bizarres des chambres non pénales, hein, devant des chambres sociales, etc., où tu as eu des questions qui ont fait que Aujourd'hui, les huissiers, on leur demande d'être quasiment sur un ordinateur tout neuf, faire des constats sur Internet, en ayant complètement nettoyé leur cache, etc. Tu te retrouves dans la même situation, mais c'est pas une façon de travailler qui est pratique et qui correspond à la réalité de ce qu'on devrait pouvoir faire. Donc, ça pose quand même des questions. Ensuite, là où on a eu des vraies questions, c'est plus sur les méthodes d'enquête elles-mêmes et qui ont amené des évolutions sur le code de procédure pénale ensuite, mais pas tellement sur l'aspect de l'investigation légale. Mais il y aurait plein de choses à dire, hein. Oui, tu peux toujours critiquer le travail qui a été fait. Et ce qui est important, c'est que l'enquêteur ou l'expert, il soit capable d'expliquer ensuite l'impact de tel ou tel acte, de telle ou telle erreur et de ensuite convaincre le jury ou les magistrats du tribunal que ça a un impact ou pas les preuves qui sont présentées. Il y a assez peu de jurisprudence très technique en France.
Ouais, que le FBI vient de se faire choper, là. J'ai pas bien compris, mais en gros, pendant 10 ans, ils ont surjoué la fiabilité des tests de cheveux, c'est ça enfin...
Ouais, des comparaisons de cheveux, ouais. Et ça pose des vraies questions, et c'est le genre de choses qu'il faut prendre en compte et nous faire réfléchir quand on fait des affirmations. Alors, l'avantage du numérique, c'est qu'on est quand même beaucoup face à des 0 et des 1, et beaucoup face à des faits. Quand tu as une image pédopornographique sous les yeux, le juge peut difficilement dire « Ah ben non, c'est pas une image pédopornographique ». Pour ce qui est de la défense du virus qui a installé des images pédopornographiques sur mon ordinateur, monsieur le juge. Donc, c'est assez courant. Le problème, c'est qu'une enquête, c'est pas que l'analyse du disque dur. C'est tout un faisceau d'indices. C'est aussi l'audition du suspect, c'est aussi des témoignages, etc., etc. Et puis ensuite, quand tu observes un disque dur, j'ai pas rencontré de virus qui télécharge des fichiers, qui les installe dans des répertoires, qui les trie, tout ça sur une durée de plusieurs années, etc., etc. Donc en toute hypothèse, tout est possible. En pratique, il faut quand même l'expliquer, quoi. Quelle est l'hypothèse la plus probable? Que la personne ait volontairement téléchargé et rangé les fichiers et qu'elle en ait parlé avec des collègues à l'autre bout de la planète, ou bien qu'il y a un virus qui ait fait ça pendant des années sur son ordinateur. Tu vois, c'est le genre de discussion que tu peux être amené à avoir. Donc, là où on a eu des discussions, en revanche, c'est sur des personnes qui ont mis en avant le fait qu'elles ne téléchargeaient pas les images, mais qu'elles se contentaient de les visualiser. Tu retrouvais des informations dans le cache web, mais pas de téléchargement en tant que tel. Je fais un clic droit et j'enregistre dans un répertoire. Et donc, c'est pour ça qu'on a introduit la notion de consultation habituelle de pédopornographie dans l'article 227.23 du code pénal, ce qui permet d'éviter ce genre de contournement de l'esprit des choses, parce qu'effectivement les contenus sont avant tout aujourd'hui consultés en ligne plutôt que téléchargés, puisque les débits par exemple qui sont disponibles à tout un chacun permettent en quelques secondes d'accéder à ce type de contenu, malheureusement. Voilà, mais donc les débats sont parfois techniques, mais ça reste encore assez rare. Et ça fait 15 ans que je bosse là-dedans, et ça fait 15 ans qu'on se dit « Ah oui, va y avoir des tas de questions techniques, etc. » Non, les vrais problèmes techniques auxquels on est confronté, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'évolution constante des systèmes. Hein, on est à Windows 8 aujourd'hui. C'est un vrai challenge pour les enquêteurs qui ont commencé sous Windows 95 et 98 comme moi. C'est un tout autre monde dans lequel tu évolues. Sans parler que des formats de système de fichiers, hein, c'est toutes les données qu'on retrouve sont complètement différentes. Et la masse d'informations aussi. Et ça, je sais pas si Solal veut en parler, mais l'argument qui dit que on a besoin d'outils rapides. pour accéder rapidement à l'information, c'est aussi beaucoup parce qu'on est face à des masses d'informations. Je ne parle pas de la taille des disques durs, hein. Je parle du nombre de fichiers, du nombre d'informations qu'on retrouve tout simplement, qui est exponentiel, pas exponentiel, mais qui se développe énormément.
Bah, il y a la masse des données des utilisateurs, mais c'est que par défaut, un Windows 7 ou un Windows 8, ça installe beaucoup plus de fichiers. Mais bon, ça peut se filtrer, enfin, les fichiers du file system, ça peut se filtrer avec des bases de hash ou des choses comme ça aussi. Quoi.
Tout à fait, mais peu d'enquêteurs arrivent à se servir de ce genre d'outils.
Ils sont pas tous
à l'aise.
Ouais, c'est sûr. Après, le problème, c'est d'avoir plus les bases de hash, je pense, qui correspondent à telle version de Windows dans telle langue, avec tel update, etc. C'est vrai qu'un Windows 8, il va installer, enfin, il va avoir, je sais pas,
c'est un peu plus de 100 000 fichiers, non, déjà, pour commencer. 100
000 fichiers par défaut, hein. Alors qu'un XP, ça devait être 20 000.
Exact.
Dans DFF, vous avez mis des choses en place là-dessus pour pouvoir justement filtrer ce genre de choses?
Ben, on a un système de filtre qui peut marcher avec des bases de hash, par exemple. Donc, si tu as le hash de l'image de base, tu peux virer tout ce qui est connu. Après, tu peux aussi le faire par type de fichier ou par extension, ce genre de choses, ce qui t'intéresse pas. Sachant que
c'est les fonctions basiques et obligatoires, hein, des logiciels forensiques. Hein.
Bah, c'est le but de pouvoir filtrer facilement ce qui est pas intéressant.
J'ai pas bien compris. En fait, les bases de hash, elles sont fournies dans le logiciel ou tu dois utiliser les bases du NIST ou autre?
Non, nous, on les fournit pas directement par les bases.
Ouais, donc parce que ça reste pas évident à trouver des bonnes bases de hash.
Alors, en plus, c'est parfois spécifique au pays, puisque la version de Windows à laquelle tu es confronté, ça peut changer complètement en fonction du pays d'installation. Donc,
Mais du coup, dans les derniers Windows, en fait, s'il y a beaucoup plus de fichiers, c'est aussi parce qu'il y a directement les traductions dans toutes les langues. Donc,
c'est vrai. Tout à fait, ouais.
Elles sont externalisées maintenant dans les DLL. Plus directement dans les DLL, les textes, ils sont ailleurs, etc. Ouais. Il y a plus de fichiers, mais ils sont plus standards. Oui.
Du coup, moi, j'ai raté un peu le début de l'enregistrement, mais tu développes en open source, donc je vois à peu près ce que ça veut dire. Les features, enfin les nouvelles fonctionnalités ou le suivi du développement de ce que tu fais, elle est basée sur quoi? Sur les besoins de tes utilisateurs ou sur les idées que tu as, enfin quel retour tu as de tes utilisateurs ou utilisateurs payants, on va dire, donc les gens qui achètent soit des formations, soit des licences DFF Pro?
Bah, c'est vrai qu'on va se baser plus sur les retours des utilisateurs, des gens qui testent et qui utilisent le logiciel.
C'est qui tes utilisateurs?
Ouais, pardon?
Tes utilisateurs, principalement, c'est quoi?
Ouais, ça va être, soit du pro qui utilise ça plus sur le côté de réponse sur incident, soit des gens qui utilisent plus, dans de l'analyse classique, que ce soit gendarmerie ou police. Après, d'après les demandes, on essaye de voir ce qui revient le plus souvent et de développer ça en premier.
D'accord.
Donc, au début, forcément, comme on n'avait pas encore d'utilisateur, on a dû avoir nous-mêmes les fonctionnalités, mais bon, on connaît les fonctionnalités de base qu'il nous faut, puis après, on évolue plus comme ça.
Et du coup, c'est plutôt la masse de fichiers, le temps de réponse ou la qualité de l'investigation?
Par rapport à ce qu'on développe, tu veux dire?
Ouais, ou des besoins?
Bah, les besoins, ça va être plus sur une fonctionnalité. Alors, ça peut être des trucs très simples, justement, sur l'utilisation du logiciel, faire des petites modifications pour que ça soit plus simple à utiliser. Après, sur les grosses features, ça va être plus un système de fichiers qui est plus rencontré, parce que maintenant, c'est plus utilisé. Peut-être qu'il y a plus de Mac aujourd'hui, donc on va nous demander d'orienter le logiciel là-dessus, des choses comme ça. Après, sur les systèmes, on va dire de... ce qui est filtre, gérer une masse de données, etc., bah ça, on le fait évoluer toujours parce qu'on essaie d'avoir des meilleures performances à chaque fois. Quoi. On fait évoluer l'API.
Bah, typiquement, les systèmes de fichiers des tablettes et des smartphones, ça devient quelque chose qui est...
incontournable.
Pas incontournable, mais qui est forcément une piste de développement, quoi.
Ouais, alors après on gère déjà tout ce qui est XFS, mais c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes qui émergent. Après, par exemple, là sous Windows, maintenant il y a XFAT qui est utilisé par défaut sur les clés USB qui sont plus grosses. Donc, par exemple, là on doit développer XFAT, des choses comme ça.
Est-ce que vous voyez des choses à ajouter?
Peut-être Solal, tu peux dire l'adresse de votre site web et puis peut-être faire un message d'appel à des développeurs parce que
voilà.
Essayer de motiver.
Justement, ouais, si on a des gens qui veulent contribuer au logiciel et nous aider, donc on a deux sites, on a le site de la société, c'est www.artist.fr. Et les sites plus communautaires, c'est www.digital-forensic.org. Et on a aussi un chat IRC, on peut discuter sur Freenode. Donc, n'hésitez pas à télécharger, tester le logiciel et nous faire des retours. Et si vous avez des idées de contribution, nous contacter pour participer au développement.
Et le compte Twitter?
Et le compte Twitter, c'est @artis. ArxSYS. C'est un peu compliqué comme nom.
Ok, ben écoute, merci beaucoup de ta participation.
Ben, merci à vous.
On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Bye bye.
Salut.
Salut.